Alors, bonjour à tous. Et le chant qu'on vient de chanter tombe très bien, puisque j'ai envie ce matin de lancer un appel à la sainteté. Alors, on dit parfois d'une personne ou d'une idée qu'elle n'est pas très catholique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression qui pourrait vous paraître pas très protestante. Et en effet, je voulais vous parler de la Semaine Sainte, qui s'achève en ce dimanche de Pâques. Alors, c'est une expression, la Semaine Sainte, qu'on utilise beaucoup dans le milieu catholique. J'ai remarqué quand même qu'elle devient de plus en plus populaire dans nos milieux protestants. Et la question que je voudrais poser, c'est comment est-ce que nous aussi, on peut s'approprier ces mots, cette Semaine Sainte, comment on peut s'approprier cette notion de sainteté? Alors, ces termes qu'on utilise encore peu, on les côtoie quand même, parce que en ces temps de période de Pâques, beaucoup d'entre nous, sans doute, ont relu les textes de la Passion, ont vécu à nouveau, au travers des lectures, cette semaine, cette dernière semaine que Jésus a vécue sur cette terre, qu'on appelle la Semaine Sainte. Et avant de lire deux textes tirés de l'Évangile de Matthieu, qui nous accompagneront dans cette réflexion autour de la Semaine Sainte, j'aimerais d'abord rappeler ce que c'est et rappeler ces moments que vivent en général nos amis catholiques à la fin du carême. Donc c'est la fin du temps du carême et cette Semaine Sainte commence avec le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire la semaine dernière. Donc pour revenir sur la Semaine Sainte, elle démarre 6 jours avant la fête de la Pâque juive, qui commémorait la sortie des Israélites d'Égypte au temps de Moïse. Et donc 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus entre à Jérusalem. La foule l'acclame. Elle a tapissé le sol de rameaux, d'habits, comme pour former un chemin royal pour Jésus. Et elle crie, cette foule crie, Hosanna! Hosanna, parce que tout le monde l'accepte comme le Messie, au moins pour un temps. Jésus est vu comme le Sauveur. Les jours qui vont suivre, Jésus enseigne à Jérusalem. Il chasse les marchands du temple. Il annonce les temps de la fin. Et il reçoit aussi l'onction à Béthanie. Et pendant ces jours-là, on peut noter les allers-retours entre Béthanie et Jérusalem. Béthanie, le lieu où vivent Lazare, Marthe, Marie, les amis de Jésus, Lazare que Jésus a ramené à la vie, et de l'autre côté, Jérusalem, lieu de la souffrance. Donc ces deux villes, Béthanie et Jérusalem, qui sont proches géographiquement, qui sont deux lieux de résurrection, sont aussi mises en contraste pendant ces jours, mises en contraste dans cette dernière semaine de Jésus sur terre. On arrive au jeudi. Jeudi, c'est le premier jour de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire que c'est le jour où on devait tuer les agneaux pour la fête de la Pâque. Et ce jour-là, Jésus prend son dernier repas avec les 12 apôtres. Paul, les évangélistes Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits de la scène, au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son corps et son sang pour le salut des hommes, pour notre salut. Jésus annonce aussi qu'il va être trahi et que Pierre va le renier. Et ce sont des vérités difficiles pour les apôtres, pour Jésus aussi. Après ce repas de la scène, l'heure de l'épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les apôtres pour prier et veiller durant la nuit. Vendredi, le récit de la Passion commence, mais tout a déjà commencé, tout est déjà en train de s'accomplir. Trahi par son disciple Judas, Jésus est arrêté, il est abandonné de tous. Pierre va le renier par 3 fois avant le chant du coq, comme Jésus l'avait annoncé. Jésus est accusé de semer le désordre par ses enseignements et surtout d'usurper le titre de Messie. Le Messie, Pourtant, c'est bien ce que les gens au départ acclamaient lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et là, il y a ce doute, cette condamnation contre Jésus qui usurperait le titre de Messie, qui ne serait pas l'envoyé de Dieu. Interrogé par Pilate, frappé par les soldats, humilié, il est condamné à être cloué sur une croix. Ce supplice était réservé aux brigands, aux criminels les plus terribles, aux esclaves en fuite. Et d'ailleurs, Jésus est entouré de brigands sur cette croix. Jésus va gravir d'abord la colline du mont Golgotha, chargé de la croix, et il va être crucifié. Et il expirera au bout de quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, il sera ensuite enveloppé dans un drap neuf et mis dans un tombeau, comme Vincent a évoqué ce tombeau tout à l'heure. Le jour suivant, rien ne se passe. Et j'ai lu quelque part que dans cette semaine sainte, le samedi était un peu comme un jour de jeûne pour les célébrations, une pause dans ces célébrations. Le lendemain, c'est le jour que nous sommes, c'est le dimanche de Pâques. Alors Pâques, cette fois avec un S, puisque c'est la fête nouvelle, la fête chrétienne. Et je vais lire quelques passages de Matthieu 28 que Vincent a déjà lu. Au verset 1, « Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. » Et un peu plus loin, au verset 5, « L'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur !» Car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait, et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Et oui, Jésus est vivant. Et nos amis catholiques observent du samedi au dimanche une veille, en l'honneur du Seigneur qui célèbre le passage des ténèbres à la lumière et qui célèbre la victoire du Christ sur la mort. Et par ces rites qui peuvent nous sembler trop liturgiques, trop rigides peut-être, ils marquent davantage ces moments intenses qui sont la semence de toute notre espérance. Pâques n'est-elle pas une fête plus grande que Noël ? N'est-ce pas par la mort et la résurrection du Christ que nous sommes sauvés ? Alors en cette période de Pâques, souvenons-nous de toute cette semaine de vie, cette semaine sainte, qui nous conduit d'un accueil triomphal à la mort. Et j'aimerais maintenant lire deux de ces textes qui jalonnent la semaine sainte. Et le premier sera l'entrée de Jésus à Jérusalem et ensuite le texte de la crucifixion. Matthieu 21, du verset 1 au verset 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres, et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il, celui-ci ? » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus, de Nazareth, de Galilée. » Et j'aimerais lire maintenant un peu plus loin au chapitre 27, à partir du verset 35, le moment où Jésus et mis sur la croix. Verset 35. Après l'avoir crucifié, les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde devant lui. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. » Alors, deux bandits sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria « Élie, Élie, lema sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « en voilà un qui appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vin aigre. Il la fixa à un roseau pour lui donner à boire, mais les autres dirent « laisse, voyons si Élie va venir le sauver ». Jésus poussa alors un grand cri et rendit l'esprit. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Il y a une semaine qui s'écoule entre ces deux moments, entre ces deux textes. Et la lecture de ces textes laisse le sentiment d'un contraste extrême, d'un contraste violent. On passe de l'élévation au mépris, de l'honneur à la souffrance, alors que les cérémonies de la Semaine Sainte nous invitent à un cheminement beaucoup plus quotidien, beaucoup plus progressif. Si on revient sur le premier texte, le mot-clé pourrait être « Hosanna ». Jésus entre à Jérusalem, il est accueilli par cette foule qui a tapissé le sol de branchages, de rameaux, d'habits, tout ça pour aplanir le sentier de celui qu'ils honorent vraiment comme un roi. Il lui déroule un tapis rouge. Et quelques jours plus tard, dans ce même lieu, toujours à Jérusalem, le couronnement va être un couronnement d'épines. Le roi qui a été célébré lors de son entrée dans la ville sainte sera bientôt, en référence à l'inscription que Pilate ordonne de mettre sur la croix, le roi des Juifs crucifié, mis à mort, comme un brigand. Ce qui touche, ce qui émeut à la lecture du texte de l'entrée à Jérusalem, c'est justement le renversement qui s'opère avec les textes de la Passion qui suivent juste après. C'est cette inconsistance de la foule qui tantôt acclame Jésus et tantôt le condamne. Et cette foule, elle est comme le peuple d'Israël qu'on voit à maintes reprises être parfois dans l'adoration de l'Éternel et parfois dans la rébellion. Elle est, je pense, aussi un peu comme nous, qui hésitons parfois entre des moments où on va être proche de Dieu, où on va être dans la reconnaissance envers Dieu et d'autres moments où on va s'éloigner, on va l'oublier et on va se détourner de lui. J'ai suggéré que le mot-clé du premier texte pourrait être « Hosanna », celui du second texte, je crois que c'est « la croix ». Et c'est là que tout est accompli. Jésus a une mission à Jérusalem, il ne cesse d'y retourner, de venir y guérir, d'y parler, malgré les menaces qui pèsent sur lui. Et le récit de l'entrée à Jérusalem montre que la mission de Jésus, c'est une mission de paix. Il vient monter sur un âne, non pas un cheval. Il ne cherche pas le triomphe dont l'honneur la foule. Il n'a ni or ni armée. Jésus est un roi qui n'est pas de ce monde. Et il ne vient pas pour gouverner un peuple, il vient pour sauver les hommes en prenant leurs péchés. Il vient pour nous libérer du mal que nous pouvons faire. Alors il a pourtant bien un cheval de bataille Et on le voit lorsqu'il s'attaque aux marchands dans le temple, lorsqu'il s'attaque aux chefs religieux, il bouscule la façon de penser de ses contemporains, de même qu'il bouscule tout dans le temple. Et les gens d'ailleurs se demandent, mais qui est-il celui-ci ? Qui est-il ? D'où vient cet homme ? Est-ce le simple charpentier de Nazareth ? C'est lui, le Messie ? Parce que Jésus vient changer les choses, il vient changer le monde et il bouleverse tout. Et la crucifixion, qui va conclure cette période-là, n'est pas ce qu'on aurait pu attendre à la lecture du premier texte, absolument pas. Et c'est pourtant bien ce qui doit arriver. Jésus devait être humilié, frappé, sacrifié. La croix, elle est au centre de notre foi. Et Paul écrit d'ailleurs aux Corinthiens qu'il ne souhaite pas leur apporter autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'on peut lire dans la première épître aux Corinthiens. Et je citerai également Ruben Sayans qui écrivait en 1908 que la croix, c'est l'âme de l'évangile, comme le soleil est l'âme du monde. Et ce qui va arriver après la crucifixion, ce moment où le voile du temple est déchiré, et puis bien sûr la résurrection, cela pourrait être lu comme l'entrée glorieuse de Jésus dans nos vies. Le moment où on va l'acclamer et on va lui dérouler un tapis rouge. Jésus a vaincu la mort, il est vivant, il est ressuscité, et nous recevons par là une invitation à préparer le chemin pour lui, à aplanir le sentier de celui que nous honorons comme un roi. Et je vois là une invitation à la sainteté. Et je voudrais maintenant m'arrêter sur cette notion de sainteté. Les deux textes que j'ai lus sont vraiment tout en contraste. On peut opposer ce cri de Hosanna à cette image de la croix. Mais dans les deux textes, on retrouve la même idée de l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé. Et dans certaines versions, on a cette phrase qui est répétée « afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé ». Chacun des faits et gestes de Jésus, entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques, chaque moment de la Passion rappelle les textes des prophètes dans l'Ancien Testament. Et cette semaine est sainte, parce qu'elle marque l'accomplissement des prophéties que Dieu annonce dès l'Ancien Testament. Dieu, qui est saint, permet que son plan soit accompli au travers de cette semaine sainte. Jésus accomplit les prophéties, comme par exemple celle de Zacharie 9, qui est citée dans le passage de Matthieu 21. Je vous relis le texte, cette fois pris dans l'Ancien Testament. Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Matthieu 27 et le récit de la crucifixion font écho à Ésaïe 53. Je citerai par exemple le verset 7. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Ou encore, on peut penser au psaume 22, verset 19, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Il n'est pas question de choisir entre ces deux vérités, entre Jésus, le roi, le sauveur victorieux, comme le rappelle ce passage de Zacharie 9, verset 9, et Jésus-Christ crucifié. On ne va pas choisir entre les deux. Jésus est le roi, le sauveur, et Jésus-Christ crucifié. De même, l'accomplissement des prophéties ne se limite pas à Jérusalem, ne se limite pas à Israël, mais cet accomplissement touche tous les hommes. Les prophètes ont aussi parlé pour nous qui sommes réunis maintenant, ce matin. Et de même encore, la semaine sainte ne doit pas se limiter à 7 jours dans l'année, mais elle devrait irriguer chaque instant de notre vie. Nous ne pouvons pas cloisonner nos vies et chacune de nos semaines, chacun de nos jours, chacune de nos heures, de nos minutes, tout cela est saint. Nous sommes le temple de Dieu, nous l'Église, nous les chrétiens, et nous devons laisser la place propre pour que Dieu puisse y entrer. Ce qui est saint, c'est ce qui honore Dieu, ce qui lui est consacré. Et dans Philippiens, ceux qui travaillent pour Dieu dans l'Église sont appelés saints. En 1 Corinthiens verset 2 également, Paul salue, je cite, « ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel ». Cette sainteté, c'est en Jésus-Christ que nous la recevons, en Christ seul. Cette semaine qui rappelle le sacrifice de Jésus est sainte parce que tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Tout cela se passe sous le regard de Dieu. Et Jésus, lui, il n'a qu'un désir, c'est servir Dieu, c'est obéir à son Père. Et sa prière déchirante à Gethsémané ne cesse de nous rappeler cela, que sa volonté à lui, c'est de faire la volonté de son Père. Et l'homme ne peut pas s'efforcer d'être saint. Je crois que ça n'est pas à notre portée de vouloir devenir saint et d'y parvenir, même par des privations immenses ou par des efforts herculéens. Mais nous sommes saints en tant que nouveau peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et de même que dans l'Église, il n'y a plus de fonction sacrée réservée aux prêtres, de même, dans nos vies, il n'y a plus de barrière entre l'Église et, j'allais dire, le reste, entre l'Église et notre quotidien. Avec Christ, tout est sacré, le culte, l'Église, mais aussi la famille, le travail, l'école, tout. Le temple du voile est déchiré et tout est accompli à la croix. Alors, pour amener la conclusion, j'aimerais rappeler que tout au long de la Semaine Sainte, après son arrivée à Jérusalem, et tout en sachant qu'il va mourir dans ce lieu, Jésus continue d'enseigner. Il ne se repose pas sur ses lauriers, ou on pourrait dire sur ses rameaux, mais il poursuit sa mission. Il parle sur le divorce, les enfants, les richesses. En d'autres termes, il parle du quotidien, de notre quotidien. Et il parle, il évoque la vie de ceux qu'il rencontre. Il guérit les aveugles, les malades, il agit les jours de sabbat, ce qui dérange les juifs. Parce qu'à ses yeux, tout est saint, tout appartient à Dieu. Et je pense que cela, nous l'oublions, en tout cas moi je l'oublie souvent, et cela nous coûte de choisir le chemin de la sainteté. Jésus dit au jeune homme riche, peu de temps avant l'entrée à Jérusalem, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et ce jeune homme riche, on le sait, il repart tout triste. Alors, ma prière, maintenant, ce matin, ça serait que nous puissions repartir tout joyeux de suivre Jésus. Parce que c'est par lui que nous serons et que nous sommes purifiés, que nous sommes rendus saints. Telle est la volonté du Père qui, déjà, dans l'Ancienne Alliance, encourageait son peuple à la sainteté. Et pour lire, je vais vous lire Lévitique, chapitre 11, verset 45. « Je suis le Seigneur. » C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Et je crois qu'on reçoit par ces paroles et par ces lectures qu'on vit pendant la Semaine Sainte un appel à la sainteté. Alors, mon dernier mot sera « Aspirons donc à la sainteté ».